Le podcast que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistré il y a de cela quelques semaines. Depuis, les choses ont changé. La Cour a ordonné un nouveau procès entier dans le dossier de la tuerie de l'Halloween. Donc, dans la conversation qui va suivre, toutes les conclusions juridiques qui sont abordées dans cette conversation-là, ça ne tient plus et le procès devra être repris à zéro. Bonne écoute.
Le podcast des grands événements avec Denis Gravel est une présentation de Climatisation Paquette. Climatisation Paquette, c'est quoi? C'est la vente, c'est l'installation, c'est la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. On a une nouveauté pour toi. On offre maintenant le service de nettoyage de conduits de ventilation. T'as pas encore de thermopompe? On a les produits Move-Air, la meilleure marque, la marque la plus fiable selon le magazine Protégez-vous. Et on installe le tout pour toi avec une équipe de techniciens d'expérience. On fait aussi l'entretien d'aérotherme au gaz naturel et c'est fait par des techniciens certifiés. T'es convaincu? Climatisationpaquette.com pour plus d'informations.
Voici un podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec.
Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Une série consacrée aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec avec Denis Gravel. Fire! On revisite un moment clé avec des témoins et acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. Le podcast Grands événements présenté par Climatisation Paquette et sa vente de produits Move-Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous. Climatisationpaquette.com.
Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast des grands événements. Mon nom est Denis Gravel. Le podcast des grands événements, on se penche sur des moments qui ont marqué la ville, la région, la province de Québec. Et l'événement qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'en est un qui est relativement récent et qui nous rappelle à quel point on oublie vite et à quel point on doit avoir un devoir de mémoire quand ça arrive dans notre ville. Et l'histoire du 31 octobre 2020 nous a marqués à de multiples niveaux. Mais la personne qui est avec nous aujourd'hui a vécu vraiment les événements au cœur de cette nuit funeste dans le Vieux-Québec, dans le secteur du Château-Frontenac. Et il a même pu prendre les premières photos de l'arrestation du tueur d'une façon bien particulière qu'il va être en mesure de nous raconter dans les prochaines minutes. Mais d'abord, les faits. Le soir du 31 octobre 2020, Carl Girouard, résident de Sainte-Thérèse, âgé de 24 ans, quitte son domicile pour se rendre à Québec avec l'intention préméditée de tuer des innocents afin, selon lui, dans son état mental, de prouver son courage. Déguisé en tenue médiévale noire, il attaque des passants dans le Vieux-Québec, près du château Frontenac, avec un sabre japonais. La première victime est blessée et frappée à la tête, grièvement blessée. L'assaillant poursuit ensuite une autre victime qui prenait des photos et la transperce de son sabre. En continuant son parcours, il agresse plusieurs personnes, dont deux touristes français. Le périple meurtrier dure environ 2 heures et demie, au cours desquelles la police de Québec tente de localiser l'agresseur. Il y a deux personnes qui sont tuées cette nuit-là. François Duchesne, directeur des communications du Musée national des beaux-arts du Québec, et Suzanne Clermont, coiffeuse de 61 ans. Il y a 5 autres personnes qui ont été blessées. Le tueur a été arrêté près d'Espace 400e dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Carl Girouard, qui est formellement accusé de 2 meurtres au premier degré et de 5 tentatives de meurtre, son procès se déroule en 2022. La défense plaide la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, évoquant un délire schizophrène exacerbé par le cannabis et les jeux vidéo. Toutefois, 2 experts de la Couronne contredisent ce diagnostic, estimant que l'accusé avait plutôt développé un fantasme narcissique visant à se donner de l'importance. Après 5 jours de délibération, le jury rejette la thèse de la défense et déclare Carl Girouard coupable sur toute la ligne. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Son avocat interjette en appel, dénonçant notamment des erreurs dans les instructions au jury. Le 31 octobre 2022, la Ville de Québec dévoile une plaque commémorative à la place d'Armes, près du lieu des attaques en mémoire de François Duchesne et Suzanne Clermont. La cérémonie publique se tient en présence de leurs familles et de représentants municipaux et de citoyens. Au cœur de cette nuit funeste, un photographe qui fait sa job comme dans le bon vieux temps, d'une façon où beaucoup de journalistes la faisaient à une certaine époque, puis je pense plus qu'il en reste beaucoup qui vivent ce métier-là de cette façon-là. Steve Jolicoeur est photographe pour Le Soleil. Steve, salut.
Hey, salut.
Comment ça va?
Ça va super bien.
Super content que tu sois avec nous autres aujourd'hui. T'es photographe depuis combien de temps?
Ça fait 15 ans déjà que je fais ce métier un peu fou.
Une quinzaine d'années, puis la passion de la photographie, ça a commencé comment?
Ah, ça fait peut-être 25 ans que je fais de la vidéo. J'ai commencé en vidéo, en fait.
OK.
Puis je filmais des bands. J'étais un amateur de musique, un peu comme toi.
OK.
Je filmais toutes mes chums, toutes les bands, toutes les shows qu'ils faisaient. Puis après ça, ben, j'ai développé un peu la photo par la force des choses.
Quand t'es photographe pour un journal, dans ma tête, faut que t'arrives avant tout le monde.
Exact.
Comment tu fais ça?
Dans le fond, on y va à la bonne méthode, la bonne vieille méthode, c'est on écoute les scanners. Fait qu'on écoute toutes les services d'urgence comme les pompiers, la police et les ambulances. Puis c'est ça qui nous donne la première information.
Toi, t'es équipé avec le scanner dans ton char ou chez vous?
Auparavant, c'était comme ça. Les premières 10 années, là, je fonctionnais, j'avais 6 scanners dans la voiture avec un paquet d'antennes sur le dessus du char. Mais à un moment donné, je trouvais que ça passait trop...
C'était dur de passer inaperçu.
Oui, c'est ça. Certains jobs que j'allais faire, ben, j'étais tout de suite repéré par les policiers. Des fois, des choses, tu sais, des perquisitions qui s'en venaient, des choses comme ça, ben, ils me voyaient tout de suite arriver. Fait que j'ai procédé autrement. Là, je me suis équipé des scanners à la maison, puis je diffuse ça sur Internet, sur mon cellulaire, puis j'écoute tout ça en direct.
OK. Wow. C'est drôle parce qu'à une certaine époque, puis les gens qui font la radio depuis une couple de décennies s'en souviennent probablement, puis en se racontant des événements, tu sais, il y a des journalistes, même à la retraite, qui sont venus nous raconter des histoires, puis on vient d'un monde où l'outil numéro un que tu avais avant Internet dans une station de radio, c'était le scanner de police.
Exact.
Pour des journalistes qui étaient nombreux, une petite station de radio pouvait avoir 6-7 journalistes puis qui étaient sur le beat puis qui étaient prêts à sauter dans le char pour aller couvrir qu'est-ce qui se passait à Québec. Internet a fondamentalement changé cette façon-là de faire les choses, mais ça prend toujours quelqu'un pour aller capter l'image, pour aller prendre la photo de ce qui se passe. Toi, t'es condamné à travailler de la vieille façon, là.
Oui, mais là, il faut s'adapter aussi parce que de plus en plus les services d'urgence s'encryptent. Donc, la police de Québec, par exemple, j'ai été chanceux, c'était dans les dernières semaines, derniers mois, la soirée du 31, qu'on était capable d'écouter le service de la police de Québec.
Okay.
Après ça, ils se sont encryptés. Ils étaient déjà en migration à ce moment-là, fait qu'on était chanceux. Mais tous les autres services, comme les pompiers de Québec, les ambulances, tout ça, c'est rendu encrypté, fait qu'il faut s'adapter. Il y en a encore qui le sont pas, sinon il faut écouter d'autres choses, comme les autobus, des choses comme ça. Fait que là, on sait, quand il se passe des événements, des périmètres de sécurité, on va le savoir comme ça. Puis aussi, évidemment, il y a le public. Le public, c'est...
Tu dois avoir des contacts aussi?
Beaucoup.
J'imagine, beaucoup, hein?
Oui. Il y a beaucoup de contacts qui nous écrivent en privé. Ils vont me dire, il se passe des événements, puis tout ça. Ça aide énormément.
Hey Steve, avant de parler de la soirée de l'Halloween du vendredi...
Samedi.
du samedi en 2020, je voulais savoir, tu sais, dans ta carrière de photographe, y a-tu d'autres événements qui t'ont marqué ou t'as pris des photos?
Essentiellement, il y en a deux. Il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est la petite Rosalie que sa mère avait poignardée à multiples reprises, puis elle l'avait jetée dans un bac à recyclage.
Ah mon Dieu, oui.
Ça, c'était à Beauport, dans ce coin-là.
Oui.
Ça, ça a été intense parce que. On était quelques-uns à voir quand les policiers ils ont ouvert le bac là, pour voir le corps. On voyait le visage des policiers puis on comprenait l'émotion. Là, ça, c'était intense.
Jusqu'où on va quand on arrive sur une scène de crime comme celle-là puis qu'on a un appareil photo dans les mains?
c'est sûr qu'il faut, il faut se filtrer, puis faut, tu sais, on en voit beaucoup, mais faut, on, de toute façon, c'est pas les images qui vont être diffusées, donc ça, sonne, ça donne rien de prendre des corps, si on n'est plus comme dans les années 80 avec le photopolice, ouais, ou des ouais, choses ouais. comme ça, que tout était montré, maintenant, il y a une espèce de censure, puis c'est bien correct comme mm-hmm. ça. Donc,
de moi, sobriété.
Ouais, c'est ça, mm-hmm. je le sais déjà, ce que je peux pas prendre, ça donne rien de le prendre, mais ça reste en mémoire, par exemple.
T'es déjà dans l'esprit de c'est les photos de journal qu'il faut que je prenne. Exact. Fait qu'il faut que je réussisse à montrer ce qui se passe sans tomber dans ce qu'on va appeler là, le gore puis les exact. Choses qui peuvent choquer davantage.
Ouais, c'est ça.
Mais ça te donne accès à des scènes. Puis tu parles de l'histoire de la petite Rosalie. Ça avait marqué, écoute, tout le monde à Québec. Quand tu retournes chez vous le soir, c'est-tu des images qui te restent en tête puis qui t'empêchent de dormir?
Certaines, oui, absolument.
Ouais.
Ben, y a aussi d'autres événements, tu sais, que sans nommer l'événement en tant que tel, j'ai vu des corps, tu sais, des personnes coupées en deux, j'ai marché dans des bouts de corps humain parce que ben j'arrivais sur la scène trop rapidement avant les services d'urgence, puis des fois, ben. Comme par exemple un accident, il y a des débris partout, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu piles pas juste dans des débris de voiture, ben ça, c'est des images qui restent très, très, très longtemps.
Parce que oui, on parle d'histoire de meurtre et tout ça, mais dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une tragédie, une sortie de route, toi, t'arrives, tu prends une photo, puis des fois, t'en vois plus que tu pourrais en voir.
Oui, oui.
Ça prend des nerfs d'acier, j'imagine, pour faire cette job-là.
Oui, c'est ça. Il faut que tu sois capable de te détacher de ça, sinon, impossible, après 6 mois, tu tombes en burn-out. Là.
T'as dit qu'il y avait 2 événements qui t'avaient marqué. Le premier, c'est celui de la petite Rosalie. L'autre, c'est lequel?
C'est la Grande Mosquée.
La Grande Mosquée, t'étais
ouais,
là aussi?
Oui, oui, oui. Ça, je suis arrivé dans les premières minutes. Je suis tombé en vacances, je venais de me servir une bière, puis je suis tombé en vacances dans 2 heures, puis j'ai entendu l'appel initial, c'était une plainte de coup de feu, mais ça arrive très, très souvent. On pensait que c'était pas fondé, mais quand on a entendu sur les ondes la voix des policiers, le souffle court, puis parler rapidement, là, je savais que c'était... Puis ils trouvaient des corps un après l'autre, là, je savais que c'était fondé, fait que je suis embarqué dans ma voiture, je me suis dirigé là-bas, mais entre-temps, le Bissonnette avait appelé le 911 pour mentionner qu'il était en route vers le pont de l'île d'Orléans, oui, puis j'habite exact. Pas très loin de là, fait que là, j'ai été tiraillé entre...
Où je vais?
Je m'en vais-tu au pont de l'île ou je m'en vais à la mosquée, puis là, j'ai choisi la mosquée, mais j'aurais dû aller au pont de l'île.
Ah oui, tu regrettes ta décision?
Oh, oui,
parce
absolument.
Que personne n'est allé là.
Non, c'est ça.
Ouais.
Puis après ça, tout le monde s'est dirigé là, mais le périmètre était tellement vaste que c'était impossible de prendre la voiture en photo.
La game d'un photographe comme toi, c'est d'arriver avant le périmètre de sécurité?
Exactement.
OK. Fait que les policiers doivent pas t'aimer ben.
Ben, il y en a que oui, parce qu'il y en a qui me donnent des informations. Fait okay. que oui, mais...
Ils comprennent
a,
ta job.
Oui, c'est ça. Il y en a qui vont le comprendre, puis qui vont... Il y en a même qui veulent avoir des photos d'eux en plein travail, des choses comme
okay.
ça. Ça m'arrive aussi.
Okay.
Mais il y en a d'autres que c'est sûr qu'ils doivent détester ce que je fais.
Est-ce que tes photos peuvent servir dans des procès?
C'est arrivé.
Oui?
Oui.
Est-ce que t'es appelé à témoigner dans ce temps-là?
C'est arrivé, oui.
OK.
C'était une affaire bien banale, là. C'était un gars qui a fait un accident d'hydravion.
OK.
Puis s'est planté dans le coin Saint-Augustin-de-Desmaures. Puis lui, il réclamait au remorqueur le montant de la réparation de son hydravion parce qu'il disait qu'il avait mal remorqué puis que, bon, ça avait endommagé davantage son hydravion. Fait que toutes mes images ont servi pour démontrer que...
OK.
Lui, il disait qu'il avait pris aucun contrôle, aucune décision sur les lieux, puis dans les faits, on voyait argumenter tout le temps que les policiers, puis pas les policiers, mais les pompiers, l'indiquaient comment procéder pour faire le remorquage, tout ça, fait que...
Est-ce que les forces de l'ordre, des fois, interviennent pour dire, cette photo-là, on aimerait mieux que tu la publies pas, ou y a-tu déjà eu de la négociation à ce niveau-là aussi?
Oui, aussi. Ben, il y a aussi côté logistique, des fois, les policiers, ils voudront pas qu'on mette sur des photos tel type de véhicule, ou tel appareils d'écoute ou des choses comme ça qu'ils vont utiliser. Puis que, bon, je le savais pas, je l'ai mis en photo, puis ils m'ont écrit ou m'ont okay. appelé pour les retirer, des choses comme ça.
Steve, raconte-nous ta soirée du 31 octobre 2020. Ça commence comment? Tu faisais quoi?
Je pars tout le temps vers l'heure de où est-ce que c'est arrivé. Je pars tout le temps vers 22h, vers 22h15. Mm-hmm. Je suis en train de préparer mon équipement. J'entends sur les ondes. J'embarquais dans ma voiture à ce moment-là.
T'allais
j'entends...
travailler de nuit, là?
Oui, okay. C'est ça, exact. C'est un samedi soir. Moi, je m'attendais à une petite soirée relax. Souvent, à l'Halloween, il va y avoir des petits faits cocasses qui vont arriver, des jeunes déguisés, chauds, tout ça. Bon, tu vois un peu...
On était dans un break pandémique, hein, si je me souviens bien. C'était un bout où ce qu'on recommençait à sortir, ça se
peut-tu? Oui, exact.
Parce que moi, dans l'après-midi, je suis allé me promener dans le Vieux-Québec, puis j'ai fait à peu près la run où tout ça s'est passé, puis je me disais, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du monde, puis j'avais ça en tête, j'avais eu une moseuse de belle journée, puis je me disais, hey, on s'est réapproprié notre ville un peu, ça fait du bien.
Exact.
Puis là, moi, je suis allé me coucher chez nous, puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis il y avait des textos partout. Fait que toi, t'allais travailler ce soir-là.
C'est ça. OK. Fait que là, j'embarquais dans ma voiture, le premier appel initial, ça parlait de personnes qui chamaillaient, puis que dans ces deux personnes-là, il y avait une personne qui était déguisée, possiblement médiévale, c'était pas certain.
C'est des appels, des policiers qui jasaient, ça?
Ça, c'est le 911 qui donnait l'appel aux policiers. Bon, qu'il y avait une bagarre face au château Frontenac.
Okay.
Fait que ça semblait pas très sérieux au départ, mais moi, bon, je m'en vais tout le temps vers la ville en partant pour le travail. Fait que j'étais déjà en direction des lieux, mais sans me diriger nécessairement au château. Mais là, les appels, ils ont commencé à rentrer un après l'autre, là, qui disaient, bon, qu'il y avait une victime, qu'il y a une personne qui bougeait plus, que là, le gars, il avait un sabre, puis tout ça. Fait que là, ça changeait la game, mettons. Là.
On est le soir de l'Halloween. T'entends parler d'un gars avec un sabre qui est en train de se chamailler ou qui est peut-être même en train d'essayer de tuer puis de blesser des gens. J'imagine que dans la fonction de ton métier, tu te poses pas la question si tu es un fake ou si tu es un faux appel. Moi, je me rends sur place.
Exactement.
Ouais.
Moi, de toute manière, même si ça soit pas vrai ou non, quand j'entends une affaire de même, je vais voir, je veux m'assurer que c'est pas vrai. Après ça, on verra rendu sur les lieux.
Où t'as parqué ton char? C'est où que tu débarques quand t'arrives?
Je me suis parqué carrément en face du château Frontenac, là, quand on tourne, direct où la terrasse du frein.
Oui.
J'ai abandonné mon auto là, puis je me suis dépêché. Je voyais déjà où que ça se passait.
Les premières choses que tu vois, est-ce que les gens sont en panique? Y a-tu beaucoup de monde? Tu sais, quand t'arrives sur place?
Y a pas beaucoup de monde, non. Il y a peut-être 5-6 personnes. Il y a un peu de voitures qui circulent, pas plus que ça. Puis le monde commence à... Quand j'arrive, les gens, ben, ils sont curieux, puis ils voient les policiers avec leurs guns, mais ils s'approchent un peu pour voir. Moi, tout de suite, je sais qu'il y a une victime. À ce moment-là, j'avais déjà entendu sur les ondes, il y avait déjà confirmé qu'il y avait une personne qui était décédée au sol, qui gisait dans son sein. À ce moment-là, moi, ce que je veux voir, c'est la scène, on voit les policiers avec leurs armes. C'est toujours, quand t'en parlais tantôt, là, ça a été une scène un peu plus difficile à prendre parce qu'on voyait très bien dans la photo, on voyait très bien la victime au sol avec les coulisses de sang,
ouais.
Tout ça, tu sais. Fait que qu'est-ce que je prends en photo? Qu'est-ce que je vais pouvoir...
C'est quoi le choix éditorial ou artistique que tu fais quand tu arrives sur une scène de crime comme celle-là?
C'est sûr que ça se déroule super rapidement. Fait que ce que je fais, j'en prends plus. Puis au pire aller, je me dis, je vais brouiller. T'sais, je vais utiliser le flou sur les photos. Si je suis pas capable d'en voir d'autres, par exemple, si les policiers, après ça, ils font un gros périmètre, puis je suis plus capable de prendre d'autres photos, moins j'aurai celle-là. Fait que là, je prends des policiers avec leur arme dans les mains, des choses comme ça. Puis là, je prends un plan vraiment plus large, au moins pas centré sur la victime en gros plan, puis tout ça. C'est ça, c'est un peu comme ça. Mais là, les policiers, eux autres, sont sur l'adrénaline. Ça crie après les gens. Allez-vous-en. T'sais, les gens sont curieux. Ils s'approchent, mais ils sont pas conscients du danger potentiel qu'il peut avoir. T'sais, le gars, il est à côté, juste dans le coin.
Puis ça, c'est un peu la question que je voulais te poser. Là, il y a une première scène de crime. Il y a des policiers qui sont sur place. Le tueur, lui, il est parti.
Oui.
Il est dans un autre secteur.
Oui, c'est ça, on ne sait pas encore où est-ce qu'il est, mais il est plus à la scène principale. Là,
t'es-tu stressé quand t'arrives? Puis que tu te rends compte que, OK, de un, c'est une tuerie, puis de deux, c'est encore en cours, puis on ne sait pas il est où.
Au moment que j'arrive, on ne sait pas encore qu'il y en a fait d'autres victimes. Mais peut-être une minute après, on commence à entendre sur les zones rentrées d'autres sites d'agression. Il y en a une, c'était juste à côté de moi. C'était dans l'escalier qui appelle l'escalier casse-cou, qui est juste à côté de la terrasse du frein.
Oui.
Il y avait une autre victime là. Fait que là, je commence à comprendre que, là, j'ai tué un risque pour ma vie.
Lui, il est sur un rampage.
Oui, c'est ça. Lui, il a décidé qu'il en tuait d'autres. Puis il est où? Fait que là, mon idée, c'était tout le temps de rester proche des policiers ou proche de ma voiture. Si je vois un gars qui va avec un sabre, on s'entend que je rentre dans ma voiture. Puis,
Fait que l'idée, dans le fond, ça a été de partir de la première scène de crime puis de te déplacer en même temps que les policiers?
Non, parce que les policiers, eux, ils restaient à la scène principale, puis là, il y avait d'autres équipes qui étaient sur une seconde, ainsi de suite, les autres scènes.
OK. Quand tu te déplaces d'un endroit à l'autre, y a-tu encore du monde qui...
Oui, absolument. Quand je suis parti, en fait, je suis parti de la première scène, je me suis en allé à pied à la deuxième, l'escalier, parce que c'était vraiment peut-être à 100 mètres de où est-ce que j'étais. Mis à part, après ça, j'ai pris ma voiture, puis là, je me suis dirigé, parce qu'on entendait des appels qui disaient peut-être qu'il aurait été vu là. Fait que là, j'essayais de me promener dans le Vieux-Québec. Quand je croisais des gens sur la route, parce que personne ne le savait, c'était pas encore médiatisé. Mm-hmm. Fait que là, j'arrêtais ma voiture, puis j'avisais les gens. Attention, vous autres, il y a un gars qui se promène avec un sabre, puis il tue du monde. Là, le monde me regardait, puis il y en avait qui pensaient que c'était une joke d'Halloween.
Ben oui, il y en a qui t'ont pas cru. Là.
Non, exactement. Fait que là, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mm-hmm. Je continue ma route. Là, je voyais des gens qui étaient fouillés par les policiers. Les bras dans les airs, puis les sacs à dos, des choses comme ça.
Ouais.
Entre-temps, là, il y a une troisième victime qui est rentrée sur les ondes. Fait que je me suis dirigé là. Ça, c'était sur la rue Sainte-Famille.
Oui.
Fait qu'on voyait un peu le chemin qu'il a pris. Lui, il a pris... Il a fait le Château Frontenac, le casse-cou. Après ça, la Sainte-Famille. Après ça, il s'est en allé. Il a tué la dernière dame sur la rue des Remparts.
À partir de ce moment-là, les policiers... quand il y a une scène qui est en cours, puis que toi, tu te promènes avec ton appareil photo, ils te disent-tu à un moment donné, « Hey, attends qu'on le pogne, là, tasse-toi » ou je sais pas quoi, dans panique, là, tu sais, de dire, « Là, nous autres, on craint que ça dégénère encore plus. » On dit au monde de s'en aller. Toi, ils tolèrent ta présence, ils te suivent, ils...
Ben, ceux que j'ai croisés, il y en a pas un qui me dit de m'en aller, mais il me disait, en fait, tu peux rester, mais reste dans notre champ de vision. C'est toutes les fois ce que j'ai parlé des policiers, c'est ce qu'ils m'ont dit. Reste dans ta voiture ou reste dans notre champ de vision pour qu'au moins, s'il arrive quelque chose, on va pouvoir t'aider parce qu'on ne sait pas où il est, pantoute.
C'est à partir de quel moment que tu es retourné à ton véhicule?
Ben, quand j'ai été prendre les photos sur la rue Sainte-Famille, après ça, bon, l'autre scène sur des remparts où la dame a été tuée, ça, on n'a pas pu se rendre. C'était déjà, le périmètre était déjà étanche.
Mm-hmm.
Fait que je me suis dit, je vais continuer à me promener pour faire des shots pour dans la ville, les gens qui se font fouiller, des choses comme ça. Entre-temps, il est rentré un autre sur la rue Sainte-Ursule. Fait que je me dirige là, j'arrive, il y a une ambulance en milieu de la rue. Personne, aucun policier.
Il était pas là encore.
Ouais. Fait que là, j'étais dans ma voiture, je débarque-tu de mon auto? Je sais pas.
Ouais.
Puis là, je vois une dame sur le trottoir qui marchait, je m'en vais la voir, puis je dis, madame, faites attention, puis là, j'y explique la situation. La dame s'est mise en panique, puis elle a pleuré.
Elle a t'a cru?
Ouais, elle m'a cru, là. Elle voyait bien une ambulance, tout ça, elle voyait que ça avait de l'air, mais il y avait toujours pas de policier. Puis durant que j'ai essayé de la rassurer, j'entends sur les ondes, le gars vient d'être repéré à telle intersection. J'étais là.
Ben voyons.
Ça a pris à peu près 30 secondes. 6-7 policiers qui sont arrivés avec l'arme à feu au poing. Puis là, ils ratissaient l'intersection.
L'as-tu vu? À ce moment-là?
Non. Il était pas là.
Okay.
Mais j'ai eu chaud.
Tout le monde le voyait partout.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que là, la rumeur avait commencé à se répandre. Puis les médias avaient commencé à en parler. Fait que là, tout le monde le voyait un peu partout.
Ils ont-tu pensé que c'était toi?
Ben, je sais pas, mais j'espère que non. Mais j'avais mes appareils photo. Ça m'aide toujours un peu.
J'imagine.
Mais j'ai eu la chienne ce moment-là. Là. Puis là, la madame est encore plus en panique.
J'imagine.
Je l'ai embarquée dans ma voiture.
OK.
Là, elle m'a demandé de la raccompagner chez elle. Là, ben heureusement, restant en haut de la rue, je suis allé la raccompagner.
T'es devenu le bon samaritain.
Oui, je l'ai raccompagné jusqu'à la maison.
C'est bien ça.
Ouais.
Dans ces circonstances-là.
Ouais.
Mais toi, tu devais avoir le cœur qui te débattait pas pire.
Oh, oui, là, ça a été un des pires moments de ma carrière côté stress. Là,
Là t'es allé jaser avec des policiers quand t'es revenu sur les lieux après être porté la dame qui, mon Dieu, vivait des émotions qu'on peut comprendre. Mm. Puis là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Bon, après ça, je me suis... entre-temps, sur les ondes radio, on a entendu qu'il y avait découvert que le véhicule de Carl Giroir était stationné face au Château Frontenac.
Mm-hmm.
Fait que je me suis dit, bon, je vais aller faire des photos de ça, de la voiture.
Oui.
En arrivant là, j'ai croisé des policiers que je connaissais. Puis il me dit la même chose que je disais tantôt. reste, tu peux rester, mais reste dans mon champ de vision parce qu'on ne sait pas pantoute ce qu'il est.
Ouais.
Fait que c'est ce que j'ai fait.
Y avait-tu du monde au Château Frontenac ce soir-là?
Oui.
Oui, hein?
Ouais.
Il avait barré les portes?
C'est ça. Ça, là, je sais pas comment c'est sorti dans les médias, mais ce qu'on a appris par la suite, moi, selon une source, c'est que, bon, c'était encore le post-pandémie, puis tout ça, ça s'est terminé. Ouais. Il y avait encore toutes les portes étaient barrées, les portes secondaires du château étaient fermées.
Okay.
Il restait juste la porte principale. Mais Giroir, lui, à la base, là, il voulait aller faire son crime au château. C'était ça qui était initialement prévu pour lui.
Il voulait rentrer dans le
dans château. Dans le château, puis tuer les gens-là.
OK.
Fait que là, il s'est frappé le nez à quelques portes barrées. Il a rebroussé le chemin, puis s'est rabattu sur les gens dans la rue.
Parce qu'on était en mode post-pandémie, puis qu'il y avait beaucoup d'accès habituellement ouverts.
C'est
qui
ça.
Étaient fermés.
C'est ça.
OK. OK.
Fait que ça l'a sauvé les gens du château.
Là, je veux que tu me racontes comment tu t'es retrouvé à prendre les photos de l'arrestation de Carl Giroir.
OK. Après avoir pris mes photos au château, là, on commençait à savoir que le périmètre allait être fermé. Bien, tout le Vieux-Québec allait être fermé.
Au complet.
Au complet. Mm. Ça, c'est à partir de toutes les portes, Porte Saint-Jean, Porte Saint-Louis, ainsi de suite. Il allait fermer tout ce quadrilatère-là au complet. On ne pouvait plus rentrer. Là, j'y ai été stratégique. Je me suis dit, je vais aller me stationner dans une petite rue pas passante. Tranquille, à l'intérieur des portes. Fait que s'il arrête à l'intérieur, je vais être encore à l'intérieur du périmètre.
Mm-hmm.
Puis si je veux sortir, ben ça, il n'y aura pas de problème pour sortir s'il le trouve ailleurs. Fait que c'est ce que j'ai fait.
C'était la première fois que tu vivais ça, un périmètre de cette grosseur-là?
Oui, oui.
Ouais.
C'était
gros. Il a fallu que tu penses stratégie alors que tu ne l'avais jamais fait.
Non, c'est ça.
Ouais.
Puis là, ben pendant que j'attendais, je préparais mes photos, je parlais avec mes boss pour savoir c'était quoi le plan de match pour le reste de la nuit.
Mm-hmm.
Puis je m'étais mis pas loin du frein Honoré-Mercier pour pouvoir descendre rapidement si jamais c'était en Basile ou quoi que ce soit.
Je me trompe-tu ou c'était avec notre collaboratrice Judith Demel que tu parlais?
Exactement.
Et c'était elle qui travaillait ce soir-là aussi?
Oui, oui.
OK.
C'était elle, puis avec Jean-François Néron qui était au soleil à ce moment-là.
Okay.
On était trois sur le terrain.
Okay.
Puis c'était avec elle que je discutais quand on a entendu, ben, un moment donné sur les ondes, il y avait des gens du port, des agents de la police du port qui avaient retrouvé un individu au sol qui semblait être le suspect. Bon. On avait déjà eu plusieurs appels dans la soirée, fait que moi j'ai pas bougé tout de suite, mais quand ils ont dit il y a un sabre à côté de lui.
Oh!
Là, je suis parti.
Lui, il était au sol déjà.
Oui, il s'est couché au sol, puis il regardait le ciel.
Mm-hmm.
Puis là, ben, c'est des agents du port, je pense qu'eux ont cru que c'était un itinérant qui était couché là, sont allés le voir, puis là, ils ont trouvé le sabre à côté de lui. Fait qu'ils
ont allumé.
Ils ont reculé, puis ils l'ont laissé là, puis ils ont attendu la police de Québec.
T'es arrivé là avant la police?
Non. Je suis arrivé là, le groupe tactique d'intervention était déjà arrivé.
Mm-hmm.
Il venait de le maîtriser, ben, de le maîtriser au sol, mais il n'était pas encore fouillé, il n'était pas encore menotté, rien.
Il était combien, les policiers?
Ben, tu devais avoir à peu près six gars du GTI, qu'on appelle.
Mm-hmm.
Après ça, peut-être une dizaine de policiers qui étaient tout autour de lui puis qui commençaient déjà à se préparer à faire un périmètre.
Oui.
Quand je suis arrivé là, j'ai abandonné mon auto. Là. Mm-hmm. J'ai quasiment laissé la porte ouverte puis je suis parti à la course. Parce que je savais que aussitôt qu'il allait prendre le contrôle de la situation, il allait faire un périmètre.
Fini les photos.
C'est terminé.
Ouais.
Fait que là, j'avais peut-être deux minutes pour jouer ma game. Fait que j'ai couru dans le fond jusqu'à dans un bosquet. Où est-ce que je me suis mis en petit bonhomme? Puis là, j'ai attendu.
Je le vois très bien. C'est un secteur que je connais très bien. Je sais de quel bosquet tu parles, littéralement, parce que j'étais allé voir après ça la scène où ça s'était déroulé. Puis je me demandais, justement, à l'époque, tu sais, le photographe, d'après moi, il était ici. Tu t'es caché?
Je suis rentré dans le bosquet carrément. Là, j'étais dans les branches. Là. J'avais juste mon appareil qui sortait parce que je me disais, si les policiers me voient, ils vont me faire reculer.
Ouais, sors.
C'est ça, je verrai plus rien, c'est sûr. Même s'ils avaient maîtrisé le gars, mais eux autres, ben, il y a peut-être des éléments de preuve au sol, des choses comme ça, tu sais.
Je pose la question, mais je prends pour acquis que oui. Est-ce que c'est la seule fois de ta carrière que tu as eu à te cacher d'un arbre pour prendre une photo?
Oui, absolument.
Tu as réussi à m'en prendre combien des clichés pendant que tu étais là?
Ben, j'en ai pris le temps de la faute. J'ai fait aussi de la vidéo. Après ça, ben j'ai attendu là, parce qu'il fallait short un peu du bosquet pour prendre mes shots. Fait que là, j'ai rentré dans mon bosquet, un peu comme Homer Simpson qui recule.
Oui.
Après ça, j'ai attendu que quand ils ont levé le suspect puis qu'ils l'ont ils l'ont amené à la voiture, c'est là que j'ai pris mes photos qui ont fait le tour.
Ça a pris combien de temps, cette séquence-là, à peu près?
4-5 minutes.
4-5 minutes? Ouais. Puis à partir de quel moment les policiers t'ont spoté?
Quand j'ai fait mes dernières photos qui venaient de se lever puis de partir avec, ouais. Là j'ai sorti du bosquet pour être mieux placé pour prendre ma shot. J'ai pris mes photos, puis là ils m'avaient vu. Là, tout de suite, ils se sont approchés vers moi puis ils m'ont demandé de reculer.
Ils t'ont pas demandé tes photos?
Non,
non,
absolument pas.
OK. C'est un événement qui a fait le tour du monde. Tes photos, tes vidéos ont fait le tour du monde aussi.
Oui.
T'es le seul qui a eu des photos et des vidéos de l'arrestation de Carl Giroir.
Oui.
Comment tes images se promènent? C'est-tu du monde qui doivent t'appeler? Comment ça fonctionne à partir du moment où les images sont reprises un peu partout à travers la planète?
Bien, certains, j'avais déjà des contacts avec certaines agences comme Reuters,
okay.
Pour avoir fait des photos de la Grande Mosquée, mm-hmm. comme je parlais tantôt.
Oui.
J'avais déjà un lien de fait avec eux. Fait qu'eux autres, quand ils ont entendu parler de l'événement, ben, sont allés vérifier, puis j'avais des photos, ils m'ont contacté immédiatement. Puis il y a d'autres agences après ça, comme ça, qui m'ont contacté via Facebook, tout simplement.
OK. Toi, à partir du moment où l'arrestation est terminée, ta job est-tu finie ce soir-là ou t'es retourné te promener en ville? Comment t'as réussi à décanter ces heures-là de ta vie là, qui ont dû être quand même assez intenses? Là?
On a resté à peu près le reste de la nuit sur la route parce que là, on voulait continuer à avoir du contenu.
Ouais.
En fait, on savait pas d'où est-ce qu'il venait, ce gars-là,
mm-hmm.
Initialement. Fait qu'on voulait essayer de voir si on serait pas capable d'avoir l'information où est-ce qu'il habite à Québec pour y avoir une perquisition, c'est sûr, chez eux.
OK.
Avec les sources, tout ça, on a appris à peu près dans le milieu de la nuit qu'il venait pas de Québec, il venait du coin de Montréal,
ouais.
Tout ça. Fait que là, on a abandonné ce côté-là.
Mm-hmm.
Là, on a continué à fouiller. Là, c'est là que j'ai eu l'information que... Mais ça n'a jamais été confirmé. Giroir aura appelé, en tout cas, on pense que c'est lui, 2 jours avant son crime, le 9/1, pour dire qu'il allait avoir une tuerie au Château Frontenac.
Ah ouais.
Ouais.
Puis on n'a pas été en mesure de vérifier si c'était lui, mais en même temps.
Ben, en tout cas, ce serait un méchant hasard, mais bon.
On va se le dire, là.
Tout est possible.
Ouais.
Selon ce que je me suis fait dire, c'est que... Il y a eu des policiers qui sont allés faire les vérifications, évidemment, au château. Ils ont mm-hmm. resté dans le secteur un bout, puis bon, ça a été traité comme un canular, probablement.
Quand tu réalises ce qui se passe, je sais pas si tu as vu l'autre côté, parce que pendant ce temps-là, dans bien des médias sociaux et dans même d'autres médias, on commence à diffuser des images qui ont rien à voir avec la tuerie. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Oui, absolument.
Il y avait des images d'un film d'Halloween qui s'était retrouvé, je pense, entre autres, aux nouvelles,
oui.
À TV.
Oui.
Comment t'as réagi, toi, par rapport à ça? T'étais-tu surpris de voir ça? Puis, en même temps, c'était quoi la réflexion que t'avais par rapport à maintenant, là? C'est tellement facile de faire semblant que quelque chose est arrivé ou de se faire prendre parce que, justement, il y a des images qui se promènent sur les réseaux sociaux.
Mais je dirais que maintenant, c'est encore pire depuis que l'intelligence artificielle est là.
Ben oui.
À ce moment-là, il l'avait pas encore, ce petit... détails-là, si on veut.
Mm-hmm.
Mais quand j'ai vu ces images-là, ben d'un, je savais déjà que c'était...
Toi, tu savais que c'était
quoi.
De la bullshit.
C'est
là.
Ça.
Ouais.
Puis je trouvais ça intense, puis je trouvais ça... les médias, ils diffusaient ça. Bon, je comprends le concept que faut être le premier sur la nouvelle. Mais crime, fais au moins la base de recherche.
Uh-huh.
Là. C'est facile là, de trouver si c'est vrai ou non, mais les gens veulent tellement être vite sur la nouvelle qu'ils diffusent n'importe quoi, puis c'est pas la première fois que ça arrive.
À quelle heure ça a fini ta nuit de travail?
Vers 5 heures, à peu
vers près. Vers 5 heures?
Ouais.
On prend-tu une petite bière après ça ou on va se coucher la tête remplie de tout ce qu'on a vu? Comment on décante d'une séquence comme ça?
Ben souvent, moi, je me mets du... je m'en vais dans mon auto, puis je roule, au lieu de m'en aller sur les autoroutes, m'en aller chez nous, je roule ces petites rues, puis je me mets du jazz.
Décompresse un peu.
Décompressé.
Ouais.
C'est ma façon de me vider l'esprit.
Ça a-tu été la nuit la plus éprouvante que tu as vécue en tant que photographe?
Oui. Ouais.
Ouais.
Je suis même pas allé le lendemain, il y avait des scènes partout, là, j'étais tellement brûlé là, que non, je voulais rien savoir.
T'as-tu, je sais pas, moi j'ai eu la chance ou j'ai pas eu la chance de vivre dans un événement comme celui-là qui est en mouvement. Le plus proche que j'ai vécu, c'est peut-être à Woodstock 99 quand tout s'est mis à brûler pendant Limp Bizkit. Puis pendant que tu le vis, tu réalises pas tant que ça, ce qui se passe, on dirait que c'est 2-3 jours après que tu dis « Hey, j'aurais pu mourir là, moi, tabarnouche, je savais pas de maudit bon sens. » Comment ça s'est passé pour toi, la réalisation de ce qui est arrivé, puis qu'à un moment donné, il y avait le signalement du tueur qui était pas trop loin de toi ou ce que t'étais, puis tu faisais partie des gens « on the loose » dans le Vieux-Québec, dans le secteur où il y a des gens qui mouraient, là.
Deux jours après, je me suis mis à penser à ça. Le lendemain, j'étais tellement fatigué que j'ai comme mis ça de côté, mais le surlendemain, ouais, j'ai commencé à y penser et dire, comme tu disais, c'est quand même, j'aurais pu me retrouver face à face avec lui, puis là, c'est quoi tu veux faire? Mmh. T'sais, à part courir puis rentrer dans ton char, t'sais, fait que je suis conscient que j'ai pris des risques, mais bon, c'était quand même des risques calculés parce que t'sais, les ondes radio, ça nous aidait beaucoup pour nous diriger où est-ce qu'il était, ouais, possiblement le gars, mais bon, il y a toujours des marges d'erreur parce qu'il y avait plein de faux signalements aussi, fait que c'était un risque, oui.
T'as-tu changé quelque chose dans ta façon de travailler? T'es-tu rendu avec un taser puis du poivre de Cayenne à ta ceinture?
Non, pas encore, je suis pas encore là, mais j'y ai déjà pensé, mais on n'est pas, mettons, à Los Angeles, comme ouais, des choses comme ça, là, mais non, à Québec, c'est quand même assez relax là, quand je couvre des événements, là, c'est rare que...
Ben justement, tu dis c'est relax à Québec. Pensais-tu un jour couvrir des événements comme ça à Québec? Parlons de la tuerie de la mosquée, parlons du soir de l'Halloween 2020. Quand on se lance dans une carrière comme celle-là, tu dis « je vais être à Québec », on pense-tu qu'on va couvrir des événements comme ça? Je peux te demander ton âge?
53.
T'as 53, j'ai 48. Moi, je pensais pas vivre ça à Québec, des événements comme ceux-là. Là.
Absolument pas, moi non plus. Moi, je m'attendais à faire des accidents, uh-huh, des meurtres, puis des incendies. Mais quand tu te frappes à un événement comme ça, ça remet tout en question, tu sais. Est-ce que je vais continuer tout le temps là-dedans?
Ouais.
Le premier événement, la mosquée, bon, il y a eu la petite Rosalie. Ça, c'était... Mais c'était différent de la mosquée puis du 31 au soir. Là, ces deux événements-là, c'est quand même, ça va-tu arriver de plus en plus? Les cas de santé mentale, là, ça explose.
Ouais.
Quand
on est confronté à ces images-là puis à ces réalités-là, on a-tu besoin de se confier à quelqu'un? On garde ça pour nous autres? On jase-tu avec d'autres personnes qui font la même job pour essayer de comprendre ce qu'on a vécu? Comment tu gères ce bout-là si c'est pas trop indiscret?
Ben, j'ai ma blonde qui m'aide beaucoup.
Ouais.
Sinon, j'en parle beaucoup avec... je côtoie des gens comme... j'ai une fille qui m'aide quand même beaucoup. On discute par Messenger. Elle aide de l'aide psychologique pour tous les intervenants d'urgence, okay, à Québec. Pompiers, tout ça. Fait que je discute avec elle. Je me vide un peu le sac avec elle. Uh-huh. Les collègues de travail qui le font aussi des fois. On essaye tout le temps de garder ça léger, tu sais, de faire des jokes quand même là-dessus parce que sinon, si t'es tout le temps dans le sérieux...
Parce que j'ai l'impression que la première confrontation, puis c'est documenté aussi, que ce soit des ambulanciers, des pompiers, des policiers, la première fois que tu fais face à la mort ou la première fois que tu fais face à des images comme celle-là puis des circonstances comme celle-là, tu peux avoir fait des cours, tu peux avoir suivi des formations, mais il n'y a rien qui te prépare à ça, puis il y en a qui ne sont pas capables de dealer avec ça.
Exact.
Ça doit être dur de passer à travers la première fois, là.
Ouais, moi, je me rappelle encore la première fois. C'était, ouais, un homme qui nettoyait son arme à feu dehors, puis il avait oublié, ouais, qu'il y avait une balle dans le fusil. Ben, c'était une carabine, fait que le visage, il n'y en avait plus.
Et quand tu t'es-tu posé la question ce soir-là, genre, hey, c'est-tu vraiment la job que je veux faire?
Oui.
Puis qu'est-ce qui t'a motivé à continuer?
Ben, ça arrive heureusement pas souvent des événements comme ça.
Ouais.
Fait que, bon, moi, je suis un tripeux de voir, tu sais, des pompiers en action, ben, des perquisitions, tu sais, avec le GTI qui rentre, des choses à même. Fait que ça, après ça, j'avais beaucoup d'événements qui se sont en suivi de celle-là qui, c'était des perquisitions pis des choses intenses, plus, ben, moins, pas de victimes, des choses comme ça, tu sais. Fait que ça m'a donner le goût de continuer.
C'est bizarre, hein? Moi, quand il n'y a pas un micro en avant de ma face, j'ai l'impression d'être ben chicken puis je suis pas capable de faire grand-chose, mais si tu m'envoies sur une scène où il y a des émeutes ou n'importe quoi puis que j'ai un micro dans les mains, je vais y aller parce que je me dis, pour tout le fun que cette job-là nous procure, une fois de temps en temps, on a du travail à faire, tu sais. Puis c'est important d'amener les images, c'est important d'amener les récits, c'est important d'être sur place dans les bons comme dans les moments les plus toughs. Puis ça a été une nuit tough à Québec, puis toi, t'étais là.
Ouais.
cachés dans l'arbre.
Exact.
Hey Steve, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter ça à partir de tes yeux et de ta caméra. Puis de ce que je comprends, au long de cette conversation-là, si vous la regardez sur la chaîne YouTube, ben vous aurez les images que tu as prises pendant cette soirée-là qui vont suivre un peu le déroulement. Là, si vous l'avez entendu à la radio, si vous êtes en train de l'écouter dans un service de streaming, ben peut-être vous tournez du côté de la chaîne YouTube pour voir le travail que Steve Jolicoeur a fait cette soirée-là. Steve, merci beaucoup.
Plaisir.
Steve Jolicoeur, photographe pour Le Soleil, podcast des grands événements sur la soirée funeste de l'Halloween le 31 octobre 2020. Si vous avez des suggestions d'événements que vous voulez qu'on se raconte ensemble, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous, textez-nous, 418-971-1021.
Le podcast Grands événements présenté par Climatisation Paquette et sa vente de produits Move Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous. Climatisation Paquette.com.